C'est sur Jet FM 91.2 avec Anne Mouchoir et Johnny T-Bay qui ne joue que le blues et boit du café. La barge russe, le tréfonds de l'humanité sont tous expliqués. C'est sur Jet FM 91.2.
Barge russe 1021, le fagot électrique. ce morceau. Je m'étais acheté le CD à Londres en 2005. C'était le main title du film Pat Garrett and Billy the Kid. C'est fait par Bob Dylan. Bob Dylan joue dans ce film ainsi que Kris Kristofferson. Mais bon, ce CD malheureusement, bon, il est resté là-bas à Londres. Il fallait que je parte. Hein. J'ai plus de fric. Et ce morceau particulièrement, main title, représente une vie que j'ai eue à Londres. C'était à Shepherd Bush, un quartier. Un appart dans lequel je payais pas le loyer, mais il fallait que je trouve... J'avais rien dedans. Bon, il faisait pas froid, donc pas de chauffage, mais j'avais de l'électricité quand même, je crois. Ouais, j'avais de l'électricité pour écouter les disques, notamment. J'avais de l'eau froide, mais pas d'eau chaude. Et je devais trouver des locataires, comme je vous disais. Je crois que j'en ai trouvé à Heathrow Airport. Non, je suis sûr de rien. Pour payer le loyer. Puis après, il a fallu que je parte quand même. Et je me rappelle aussi l'eau froide sur le dos. Tout le long de mon périple à Londres, c'était comme ça. Que de l'eau froide. Et il y avait aussi la souvenance de veiller dans un parc juste à côté. Où je regardais mes doigts se croiser, se frotter les uns aux autres sous un arbre. Je rêvais. Je vais vous lire les premières lignes du petit chapitre L'enfant au miroir de Ainsi parlait Zarathoustra. Oh, laisse-moi faire. Oui. Allez-y, professeur Schmidbli. Là-dessus, revint Zarathoustra. Sur ses montagnes et dans la solitude de sa caverne. Et il se tint à l'écart des hommes, attendant comme un semeur qui a lancé son grain. C'est remarquable. Après votre... ce que vous nous avez dit sur votre voyage à Londres, c'est... je vous imagine comme ça, sous les arbres. C'est une image. Mais pour ceux qu'il aimait, son âme s'emplit d'impatience et de désir, car il avait encore beaucoup à leur donner. Le plus pensant est, en effet, de clore par amour la main ouverte et prodigue de pudeur gardée. Ainsi passaient pour le solitaire lunes et années, mais croissait sa sagesse, et de ce qu'elle fut pleine, il recevait souffrance. Or, un matin, avant même l'aurore, il s'éveilla, longuement réfléchi. Sur sa couche, et à son cœur enfin, il parla. De quoi donc, en mon rêve, eus-je-t-elle effroi que m'éveillait ? Ne vint à moi un enfant qui portait un miroir, d'où le titre de ce chapitre, L'enfant au miroir. Zarathoustra, me dit l'enfant, en ce miroir te regarde. Mais lorsqu'en ce miroir je regardais, alors m'écriait et fut secoué mon cœur, car ce n'est moi que j'y voyais, mais le diable, grimace et ricanement. De ce rêve trop bien, en vérité, j'entends le signe et la monition, ma leçon est en péril. L'ivraie veut de bon grain recevoir mon nom. Puissants sont devenus mes ennemis, et de ma leçon ont tant défiguré l'image que des dons que je leur fis. Ceux qui me sont les plus chers ne peuvent que prendre honte. Perdus sont mes amis. Il est temps que je cherche mes perdus. Car il faut savoir, j'aurais de la citation, n'est-ce pas, cher Johnny Tipek, de Ainsi parlait Zarathoustra. Il faut savoir que le, il dit qu'il vient de la montagne. Oui, ça commence dans une montagne. Et oui, exact. J'avais d'ailleurs fait une fois un parallèle avec Dragon Ball. Son Goku, c'est pareil, ça commence dans une montagne. Un surhomme. Oui, peut-être, je ne connais pas assez. C'est un film, un dessin animé, excuse-moi. Dragon Ball, oui, bien sûr, pardon. Je m'en pardonne, oui. Oui, peut-être, je n'ai pas vu. Voilà, merci, professeur Schmidbly, pour cette introduction de Zarathustra. Je vais me permettre de continuer une étude en utilisant Zarathustra, si vous permettez. Oui, c'est votre chronique. Oui, merci beaucoup, professeur Schmidbly. À la différence de Nietzsche, j'ai pu lire dans un ouvrage, surtout les philosophes, la philosophie islamique. Donc depuis Christian Jambet, et j'ai, malgré tout, malgré moi, réussi à tirer des parallèles, bien sûr, tout comme souvent et comme toujours. Professeur Schmidbly, il y a une chose que je comprends pas trop chez Nietzsche, c'est quand il dit qu'il faut être méchant. Vous avez dit que c'était pas la méchanceté bon, pour tuer son voisin, mais c'était une méchanceté différente. Mais laquelle au juste?
Oui. Bien, Johnny Dybeck. Très bonne question, Johnny Dybeck. Il s'agit, en réalité, d'être méchant. Vous savez, j'ai bien écrit ce qu'il appelle les gens primitifs, personnes primitives. Et le surhomme. Et pour lui, il n'y a pas d'entre deux. Il y a en gros deux catégories de personnes. Eh bien, c'est en tant que, peut-être en tant que primitif, comme il peut les appeler, être méchant avec les autres primitifs. C'est de ça qu'il s'adresse. Il ne s'adresse pas au surhomme. Il s'adresse aux personnes primitives. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il n'est pas très explicite là-dessus. Car il ne veut pas invoquer une sorte de dédain pour les personnes de ce genre. Non. Lui, étant surhomme, à ses yeux, j'entends, il ne veut pas justement dire « Moi, je suis surhomme, je suis Zarathustra. » Non, il ne veut pas dire ça. Non, ce serait mauvais, ce serait mal. Et il ne veut pas dire que les autres sont justement des faibles. C'est délicat pour lui aussi de dire ceci. Vous voyez ? Ouais. Donc voici. Il faut, pour se surpasser, pour passer au surhomme, il faut être méchant envers son égal. Ouais. De le voir ça dans le livre sur. La philosophie islamique. D'ailleurs, la philosophie islamique était dans cette mouvance de pensée. aider son prochain, enfin, d'une élévation.
Voilà, comme j'ai déjà pris dans Zarathustra de Nietzsche, l'enfant miroir en début d'émission, une partie, un extrait, je vais continuer avec De l'homme supérieur, toujours du même ouvrage, Friedrich Nietzsche. Parce qu'en fait, c'est disposé de plein de petits chapitres, ainsi par les Zarathustra. Donc là, voilà la citation. « Vous, les hommes supérieurs, voici ma leçon. Sur la place publique, personne n'accorde créance aux hommes supérieurs. Et voulez-vous y parler, grand bien vous fasse ? Mais la populace cligne de l'œil, disant « Nous sommes tous égaux ». Vous, les hommes supérieurs, ainsi parle la populace, clignant de l'œil. Il n'est pas d'homme supérieur. Nous sommes tous égaux. Un homme est un homme devant Dieu. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Mais il est mort à présent, ce Dieu. Or, devant la populace, point ne voulons être égaux. Vous, les hommes supérieurs, fuyez la place publique. Dieu mourut à présent. Nous voulons, nous qui vivent, le surhomme. Donc là, il disait que... En fait, j'ai réfléchi à ça. Et en fait, Nietzsche, il dit... il se met à la place de ce qu'il appelle l'homme primitif, je dis Dixit, Dixit Nietzsche, qu'on pourrait appeler l'homme commun. Enfin, c'est hyper délicat, hein, de parler au nom de Nietzsche sur l'homme supérieur et l'homme, le surhomme et l'homme primitif. Donc oui, en effet, le trois-con, le manipulateur, donne l'illusion à un individu comme d'être un surhomme. Voilà, c'est un peu ce qui... Tout ce que je vous dis, ce que j'ai écrit, ça sort de ce que je viens de lire. D'accord ? Donne l'illusion à l'individu, le trois-con, donc conformisme, conditionnement, contrôle, consommation, le trois-con donne l'illusion à un individu commun d'être un surhomme. Comme l'exemple que j'avais pris il y a plusieurs temps, enfin quelques mois, le mec dans sa grosse voiture, quoi. Dans sa grosse BM, dans sa grosse Merco, c'est moi le surhomme. Mais tu sais, ou la grosse Porsche, tu sais, le taille, le truc qui prend les deux voies de la voie publique, quoi. J'exagère, mais une bonne partie d'une seule voie, en tout cas. Un surhomme voit un homme parfait. Alors, des acteurs, réalisateurs, des médias en sont une excellente illustration. Alors, les acteurs, parce que bon, on leur dit ce que les réalisateurs veulent qu'ils fassent. Ce qui fait de donner une illusion, et cette illusion va porter l'homme commun. L'homme commun va englober le surhomme, et le surhomme est l'homme primitif de Nietzsche, l'homme commun, pour reprendre ce que je viens de lire. Et le déni est flagrant ici, parce que dans les acteurs, réalisateurs, médias en sont une excellente illustration, et là le déni est flagrant. Que les personnes communes, le commun des mortels, disons, ne voient pas que c'est illusion, quoi. Le mec, admettons, film d'action, le mec, il va rentrer dans un entrepôt avec des tireurs d'élite à tous les coins, quoi. Ben non. Ou alors, non, encore mieux, un film de guerre. Et là, t'as les mecs, ils sont tous un sniper, et lui, non. Il est super fort. Les snipers n'arrivent pas à le tuer, quoi. C'est pas possible. Un sniper, ça fait mouche, quoi. Direct. Même le plus mauvais des snipers, il arrive à tuer une mouche, quoi. Tu vois. Donc là, le déni est flagrant, parce que les gens ne voient pas ça. Et ils croient que... Ah ouais, comme ce mec, cet acteur, ce héros est super fort, je le suis aussi, je peux le faire. Ça peut arriver. Mais non, ça peut pas arriver. Nous, là, c'est la magie de... Enfin, la magie... magie noire d'Hollywood, quoi. Et donc là, le déni est flagrant, celui de l'individu qui se croit parfait au-dessus des autres, de s'apercevoir qu'il est en deçà, en fait, de ses prévisions, qui sont installées par cet exemple d'Hollywood que je prends, mais il n'y a pas qu'Hollywood qui donne des exemples comme ça, il y a les médias aussi, ils sont très forts pour ça. Alors, hier, j'écoutais une radio, la radio que j'adore, vous savez, c'était minable. Et voir de l'autre, celui d'un individu qui se croit parfait, au-dessus des autres, de s'apercevoir qu'il est en deçà de ses prévisions, voire en deçà de l'autre, ou encore de son voisin. Bon. Ouais. Donc maintenant, on va s'écouter Think de James Brown. Par Le Signe, le chapitre Le Signe de Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche, encore une fois, page 390 des éditions Folio Essai. Donc, que m'advient-il, pensait Zarathoustra, en son cœur étonné, et lentement s'assit sur la grosse pierre qui était devant le seuil de sa caverne. Or, cependant, qu'il tendait les mains alentour, au-dessus et au-dessous de lui, et des tendres oiseaux se défendaient. Voilà que lui advint chose plus étrange encore. Car, ce faisant, il saisissait, sans y prendre garde, une épaisse et chaude toison, mais au même moment, devant lui, un rugissement, un suave et long rugissement de lion. Entre guillemets, le signe vient, dit Zarathoustra, et son cœur se changeait. Et en vérité, lorsqu'il fit clair devant lui, là gisait à ses pieds un puissant fauve jaune, et sur le genou de Zarathoustra avait incliné la tête, sa tête, et par amour ne le voulait quitter, et faisait comme un chien qui retrouve son ancien maître. Or les colombes, en leur amour, n'étaient moins empressées que le lion. Donc là, on a le signe à Zarathoustra, parce qu'en fait c'est un peu comme Dragon Ball, je vous disais au début il sait pas qu'il a des super pouvoirs, pas vraiment, il a été élevé tout seul par son grand-père et puis après il y a le dessin animé, je me rappelle plus exactement, mais c'est comme ça que ça part. Et là c'est un peu la même chose avec Zarathoustra. Pour Nietzsche c'est un surhomme, c'est le modèle quoi de Friedrich Nietzsche. C'est mon interprétation, parce qu'en fait, il se pose des questions, le Zarathoustra. Et tout le monde peut être Zarathoustra, comme dit la philosophie islamique, comme on va le voir juste après, rapidement, parce que j'ai pas tout... Et là, le lion, ça me fait penser... c'est un âne, en fait. Un âne ou un chameau qui traverse le désert, qui se transforme en lion,
et qui se transforme en enfant, qui rugit comme un lion et après devient un enfant. Et donc ensuite, pour continuer ce chapitre, posèrent et ses épaules, mais le robuste lion toujours léchait les larmes qui sur les mains de Zarathoustra tombaient et se faisant rugissait et timidement grondait. Ainsi se comportaient ces bêtes. Or, cependant, à la caverne de Zarathoustra s'étaient éveillés les hommes supérieurs. Bah, compassion, la compassion pour l'homme supérieur, s'écria-t-il, et de bronze devint sa face. Voilà. Courage, le lion est venu, proche sont mes enfants. Zarathoustra, maintenant, est mûr, mon heure est venue. Ceci est mon matin, c'est mon jour qui se lève, debout maintenant, debout. Ô toi, le grand midi. Ainsi parlait Zarathoustra et quitta sa caverne, ardent et vigoureux comme un soleil matinal qui de sombres montagnes vit. Paf. Et là, c'est fini. On a fini Zarathoustra. C'était les dernières lignes. Et en fait, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent... Enfin, j'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas vraiment Nietzsche et qui disent « Ah ouais, le surhomme... » Ben ouais, mais c'est... Le mec qui dit ça, en fait, il ignore que lui aussi est en voie de devenir un surhomme. Le surhomme, c'est pas réservé à une élite. C'est une élite. C'est une élite à ceux qui se posent des questions, qui peuvent encore se poser des questions. Parce que c'est pas non plus tous ceux qui se posent des questions. Enfin, si. Oh, c'est conflictuel. Ouais, le surhomme. Mais en tout cas, on peut pas échapper à appartenir à cette élite du surhomme. Tel que l'a décrit Nietzsche. C'est pas... Non, parce que, comme dit... il l'a dit, je vous l'ai lu. Les hommes communs qui se prennent pour des surhommes, ils sont dans l'illusion totale. Parce que le mec qui va justement se moquer du surhomme, va se moquer d'un point de vue, en un sens. Enfin, inconsciemment. Et ça fait de lui... il se croit supérieur, mais... Il se croit supérieur, mais en fait, en faisant ça, il est inférieur. Donc, il n'est pas un surhomme, ni un homme parfait. On va voir ça juste après. Tu vois, c'est comme, par rapport à ce que j'entendais hier, la liberté d'expression à la radio, elle existe. En France, elle existe dans beaucoup de médias. Et j'en suis une preuve vivante. Je suis... Mais une fois, j'avais fait un... C'était il y a longtemps, hein, c'était le début des Barges Russes, il y a 3 ans. Et je demande, j'avais fait un enregistrement par rapport à un truc un peu politique de l'État, quoi. Et j'avais demandé, mais est-ce que je peux passer ça? Et là, il m'avait été dit par le Pascal Massiot, qui était à l'époque le journaliste de JFM, m'avait dit, tant que tu fais pas aucune diffamation, t'as tous les droits. Et en fait, ce que j'ai appris hier, c'est que le mec, il fait une diffamation pas possible, incroyable, et tout le monde se rebiffe, tout le monde dit « Ah, oh, c'est pas normal !» et tout. Ben, non, tu fais une diffamation, ben, t'assumes. Tu te fais virer de l'antenne, t'assumes. Tu vois ? Voilà. Après, voilà. Je vais pas en parler davantage, parce que ça vaut pas le coup. C'est le moment, j'aime pas du tout. Alors, voilà, c'est dit, c'est fait. Mon coup de gueule est passé aussi. Il n'y a pas de diffamation. Non, ni les faux culs qui disent... Bon, bref. Donc, j'en étais où ? Donc ce livre de Christian Jambet, « Qu'est-ce que la philosophie islamique ?» m'a beaucoup intéressé. Et c'est de 2011, édition Gallimard. Donc déjà, je vais vous lire comment vraiment je me suis... Je vais vous lire. « L'éthique philosophique est indissociable de la science de l'âme et d'une dynamique intérieure à la vie de l'âme parlante, de l'âme rationnelle. L'âme doit être conçue dans le mouvement de sa progression et de son activité. Sa substance n'est pas synonyme de fixité, mais au contraire d'énergie et d'actualité croissante. L'intelligence humaine est apte à se conjoindre au degré immatériel de l'être. Lorsqu'elle atteint son actualité parfaite, en passant d'une version aristotélicienne de l'actualité de l'intellect, en sa version avicennienne, à la perception de plus en plus nette du mouvement intérieur de l'âme, d'une âme qui est tout entière mouvement substantiel. La philosophie rejoindra, en islam, l'intuition plotinienne, qu'elle adoptera au titre de la conception philosophique du retour à l'un. C'est que Plotin a parfaitement vu que l'injonction « se rendre semblable à Dieu » supposait une telle motion. Un moi immobile ne pourrait s'évader de la prison du corps et de la nature. Au contraire, le retour à l'un, l'assimilation à l'un, ou du moins à l'intelligible, qui procède immédiatement de l'un, suppose l'existence de ce moi mobile et protéin, ancré dans le monde intelligible. La spécificité des philosophes de l'islam réside en l'harmonie entre la sagesse antique, une activité dont le monde antique leur a légué le style, et une incitation que la révélation coranique leur imposa, concevoir le sens de cette révélation et, en conséquence, le sens du monothéisme islamique. La philosophie première est la philosophie de la souveraineté, tandis que la politique est dérivée. Seconde, si la philosophie première ne neutralisait pas les conflits théologiques, n'instaurait pas, sur la ruine des dualismes, l'injonction monothéiste, aucune politique sérieuse du gouvernement humain ne pourrait s'installer. Pédagogie intellectuelle, la philosophie pourra concurrencer la prophétie dans l'exercice politique. Parce qu'elle l'aura concurrencé d'abord dans l'expérience cognitive, dans l'exercice cognitif. Et voilà, on arrive à la perfection, à l'homme parfait, et là au surhomme de Nietzsche. Le but de perfectionnement de l'homme en retour vers son Seigneur sera de devenir semblable à l'ange, en se dépouillant des passivités et des souillures de la matière. Tel sera le sens final de l'assimilation à Dieu. L'horizon éthique et sotériologique de la philosophie islamique naît tout armé des théologies chrétiennes syriaques de l'image. Le modèle n'aura aucune peine à se fondre avec des schèmes tous semblables présents dans les plus anciennes spéculations portant sur l'homme de Dieu. Entre le néoplatonicisme christianisé des écoles de Perse, l'aristotélisme de l'école d'Athènes et de l'école d'Alexandrie et l'anthropologie messianique de l'homme parfait, la synthèse philosophique produira une théologie de l'image métaphysique et une physique de l'invisible. L'image métaphysique et une physique de l'invisible. Le couple des concepts du modèle et de l'image gouvernera la compréhension des hiérarchies cosmiques. La philosophie a le désir de la belle totalité, de l'image parfaite de l'ordre divin. Elle voudra que le vrai, ce soit le tout. Ce que démontre l'activité philosophique rejoint l'enseignement des prophètes, car la belle totalité du vrai est l'idéal de la guidance qui fait taire les autorités humaines illégitimes au nom de l'ordre divin qui se réfléchit dans le miroir du monde. C'est la philosophie islamique est super intéressante. Hein. Elle est riche. Elle est. Je parle que de la philosophie. Hein. Je parle pas de la religion. Enfin, un petit peu là, il est un peu question de la religion, mais elle en dépend. Enfin, elle en dépend. Elle y est liée en tout cas. Et la dernière partie que je vais vous lire. Le châtiment réel des incroyants et des transgresseurs est dans l'autre monde, dans leur transformation en bête sauvage ou en démon, comme Sadra l'explique longuement dans ses chapitres eschatologiques. Le corps de résurrection bestiale, sauvage ou satanique est le châtiment que le mal agissant trouve dans la tombe par l'effet terrifiant de son imagination créatrice. Cela fait partie aussi du domaine de la religion, mais ne relève pas du droit pénal. Le droit de punir est légitime, mais son application semble impossible. Pas mal ça. Le droit de punir est légitime, mais son application est impossible. Car il est contradictoire de mettre à l'épreuve et de faire cesser l'état de la mise à l'épreuve. Sadra ne peut faire autrement que d'admettre l'exercice de la justice contraignante, mais il l'isole, le circonscrit et en libère selon l'intrépidité de l'inspiration du soufisme. L'ensemble des pratiques authentiques de la liberté spirituelle qui seules reconnaissent la seigneurie intégrale de Dieu sur les hommes. La mise à l'épreuve aura des conséquences dans le châtiment de la tombe, mais le châtiment ici-bas, tout légitime qu'il soit, relève de ce qui tombe hors religion, puisque le verset « pas de contrainte en religion » doit être tenu pour abroger lorsque le droit pénal religieux s'exerce sur l'infidèle. C'est vraiment c'est différent de tout. C'est différent et en même temps, c'est ce que je... Ah ouais, moi je trouve ça hyper intéressant. C'est le fond des Bergerus, c'est un peu... Ah ouais, c'est pas loin, quoi. Et puis, ouais, là, il parle d'infidèle et tout. Bon, ça... Bon, après, c'est le coup des religions. Moi, je ne suis pas trop là-dedans. Mais bon, c'est intéressant de s'intéresser. Des façons de voir, quoi. Comprendre.
Je l'ai allumé après manger. À 14h, c'était la barge russe. Johnny est là en train de parler. Elle me fait de la guitare. De battre mon cœur s'est arrêté. Sur le lit, j'ai jeté mes disques. Tout contre elle qui est branchée. Ses harmonies m'ont rendu muet. Fatigué, je suis crevé. Toute la nuit j'ai écouté des émissions. Le silence, c'est tellement bon. Johnny et Moussa sans contrefaçon. C'était le moment de la réflexion. 14h05, la quotidienne. Et on se pose des questions. La barge russe,
c'était... C'était donc la barge russe 1021, le fagot électrique de Zarathoustra.